La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Qu'est-ce qu'un homme ? Réponse dans la politique. Nous le mesurons, la Deuxième Guerre mondiale a été un moment fort pour Maritain, un creuset. Les deux Maritains, Raïssa et Jacques, écrivent des œuvres importantes. Raïssa écrit Les Grandes Amitiés en deux parties. Elle trouve dès 1940 le titre, donc Les Grandes Amitiés, pour le premier volet qui s'appelle Souvenirs, et le deuxième volet, Les Aventures de la Grâce, écrit en 1944, articule donc tout le passé de Meudon et d'avant Meudon, leur conversion, les amitiés avec Peggy notamment. Et Maritain écrit pendant ce temps-là plusieurs grands textes. Les principes d'une politique humaniste en 1944, nous notons le mot humaniste. C'est un mot qui est important. Pourquoi ? Parce que Maritain dessine, on va dire, trois temps dans les siècles qui ont précédé. Le premier, c'est l'ère médiévale, qu'il appelle l'ère sacrale, où finalement tout est théocentré. Le deuxième, avec l'humanisme précisément, fait apparaître l'homme au centre. Vous pensez à l'homme de Vitruve, hein, qu'on voit au milieu de mesures, de cercles concentriques ou pas concentriques, mais qui permettent de montrer que l'homme va être la mesure de toute chose et non plus Dieu. Eh bien, cet humanisme anthropocentré trouve sa fin, selon Maritain, dans la Première Guerre mondiale. Et on est obligé de repenser les choses, sinon on court à une catastrophe. Et les repenser, c'est proposer un humanisme, parce qu'on ne nie pas l'apport des siècles, parce que l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans l'histoire, donc il ne s'agit pas de rétrograder, mais de l'enrichir. Et donc, il propose, c'est Maritain, un humanisme théocentré. Et cet humanisme théocentré va s'incarner, on va dire, dans la démocratie. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, comme dira Abraham Lincoln, qui est un président des États-Unis, qui a pu marquer Maritain par le séjour qu'il fait là-bas, séjour forcé, il s'agit d'un exil. Et c'est à partir de cette réflexion donc sur l'homme, l'humanisme, que Maritain pense la politique. Alors, de l'homme à un homme, il y a un pas. Et ce pas, c'est celui qui est marqué par l'existentialité. Quand vous dites l'homme avec un grand H, vous pensez à une définition de l'ordre de l'essence. Qu'est-ce qu'on pourrait définir comme étant le propre de l'homme ? Aristote va dire que c'est un animal politique. On dira aussi un animal rationnel. Paul Ricoeur dira un animal symbolique, etc. Pour réfléchir sur la politique, on passe de l'article défini, l'homme, à l'article indéfini. Qu'est-ce qu'un homme ? Et un homme, c'est insister sur son existentialité, c'est-à-dire le fait qu'il soit ici et là, dans un espace-temps, à vivre avec d'autres. Ce qui tout de suite ouvre la porte à la question politique. Alors je vais reprendre la synthèse à Henri Barthes. Dans son écrit « La politique selon Jacques Maritain », nous sommes dans un des premiers auteurs, vraiment c'est un Breton absolument génial, qui a commencé par réfléchir sur l'œuvre de Maritain, du vivant de Maritain. Et Maritain, en notre temps, a été soumis à Maritain, qui est très élogieux. Le deuxième livre de Henri Barthes, c'est « La politique selon Jacques Maritain », et il s'ouvre ainsi. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce que la politique, écrit Henri Barthes ? C'est une affaire d'homme. Il n'y a pas de politique des abeilles, bien qu'on parle à leur sujet de reines et d'ouvrières. Ce sont les hommes qui parlent ainsi, en essayant d'interpréter les mœurs animales par analogie avec les mœurs humaines. Il n'y a pas non plus de politique chez les anges, pour autant que nous puissions en juger. La politique est une affaire d'hommes. C'est pourquoi la première question que nous devons poser est la suivante, qu'est-ce qu'un homme ? Non pas seulement qu'est-ce que l'homme ? Cette question aussi est légitime, car il y a vraiment une nature humaine qui peut se définir. Et si on la définit, ce sera naturellement au moyen de notions plus générales. On dira, c'est un animal raisonnable, un animal religieux, un animal politique. Mais un homme est autre chose que la nature humaine. Et la réponse que nous donne Jacques Maritain consiste précisément à nous dire qu'un homme n'est pas une idée. Il est un existant. Il ne donne pas cette doctrine pour la sienne propre. Maritain en fait remonter l'origine à la pensée du Moyen-Âge, nourrie par l'Évangile et surtout à saint Thomas d'Aquin. Le Moyen-Âge chrétien a de mieux en mieux compris qu'un homme n'est pas une idée, écrit Maritain. C'est une personne. Il subsiste dans l'univers et devant Dieu. L'homme est au cœur de l'existence. C'est là que toutes les flèches du bien et du mal viennent le frapper et que l'action, l'incompréhensible action du premier être et des êtres, l'atteint et le soutient ou le blesse et que lui-même, il poursuit dans le temps son tenace effort de créature tirée du néant et faite pour le bonheur. On pourrait formuler ainsi le principe métaphysique de l'humanisme médiéval, celui-là même qui a fait l'existence. Seul, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Seule une pensée centrée sur l'existence peut donc approcher tant bien que mal des retraites du cœur humain et de la grandeur originelle de l'homme et de ses abîmes et s'accorder aux aspirations secrètes de cette étrange image de Dieu. Vous mesurez que ce texte est écrit pendant la guerre et qu'il est déjà un existentialisme. Effectivement, pour Maritain, le premier existentialiste, c'est saint Thomas d'Aquin. Autrement dit, quand Sartre écrit « L'être et le néant », l'existentialisme a déjà été pensé par Maritain. Et quand, en 1947, Maritain répond à Sartre avec son traité, court traité de l'existence et de l'existant, Maritain va reprendre les textes de la guerre. Et ces textes de la guerre qui ont été propulsé par la réflexion sur le désastre politique, renvoie bien sûr à une métaphysique de l'existence. Et on peut voir finalement le prophétisme, la vision, le côté visionnaire de Maritain qui anticipe Sartre en disant finalement le premier existentialiste, c'est saint Thomas d'Aquin. Maritain dira qu'il y a un existentialisme académique, celui de Sartre, qui s'oppose à un véritable existentialisme. Approfondissons, parce que c'est cet existentialisme qui est à la base de la réflexion politique, en particulier d'une démocratie qui soit profondément chrétienne. Qu'entendre par le fait que chaque homme est une personne et qu'il est quelqu'un? Toujours pendant la guerre, Maritain va écrire une autre œuvre, une autre réflexion, c'est « Les droits de l'homme et la loi naturelle » qui sont publiés en 1945. Donc la loi naturelle s'oppose à la loi positive, le droit naturel s'oppose au droit positif. Pour vous le faire comprendre rapidement, je reprendrai l'exemple de Maritain, qui est celui d'Antigone, dans la pièce de Sophocle. Antigone répond à Créon « Tes lois humaines ne peuvent rien contre les lois non écrites des dieux. » De quoi s'agit-il? Antigone est allé recouvrir de terre et d'eau, faire une oblation sur le corps de son frère Polynice, laissé en dehors des remparts de Thèbes et laissé à l'abandon, donc proie des bêtes, aussi bien les vautours que les bêtes à quatre pattes. Et Créon veut marquer par là sa désapprobation du duel entre Polynice et Éthéocle, les frères d'Antigone. Ils sont quatre enfants, la sœur Ismène étant la quatrième. Et Antigone ne va pas obéir à la loi de Créon, qui est de ne pas enterrer Polynice, puisqu'elle va faire cette oblation et qu'elle répond qu'elle a obéi à une loi, aux lois imprescriptibles et non écrites des dieux. Et Maritain dit, c'est l'exemple de la loi naturelle. Cette loi naturelle ne passe pas d'abord par la raison, même si en second temps elle sera énonçable par la raison. Cette phrase de Antigone suffit à être une énonciation première. Cette loi passe à la conscience par une forme de connaturalité, donc par une forme d'appréhension de la loi préconsciente. Et Maritain prendra un deuxième exemple, c'est le décalogue de Moïse. Il dit que le décalogue, finalement, c'est l'écriture de lois qui sont déjà au fondement du préconscient de l'homme. « Tu ne tueras pas ». En principe, l'homme a conscience que son vis-à-vis, un homme, est quelque chose d'inaliénable, une valeur absolue. Voilà comment Maritain donne des exemples de la loi naturelle et donc du droit naturel opposé au droit positif. Et à partir de cette notion, il dégage la notion de personne. Quand nous disons qu'un homme est une personne, nous ne voulons pas dire seulement qu'il est un individu, comme un atome, une tige de blé, une mouche ou un éléphant, qui sont des individus. L'homme est un individu qui se tient lui-même en main par l'intelligence et la volonté. Il n'existe pas seulement d'une façon physique, il surexiste spirituellement en connaissance et en amour, de telle sorte qu'il est en quelque manière un univers à soi-même, un microcosme dans lequel le grand univers tout entier peut être contenu par la connaissance et qui, par l'amour, peut se donner tout entier à des êtres qui sont à lui comme d'autres lui-même. Relation dont il est impossible de trouver l'équivalent dans le monde physique. La personne humaine possède ses caractères parce qu'en définitive, l'homme, cette chair et ses eaux périssables qu'un feu divin fait vivre et agir existent, de l'utérus au sépulcre, de l'existence même de son âme qui domine le temps et la mort. C'est donc l'esprit qui est la racine de la personnalité. La notion de personnalité connote ainsi celle de totalité et d'indépendance. Si indigente et si écrasée qu'elle puisse être, une personne est comme telle un tout. Et en tant que personne, elle subsiste d'une manière indépendante. Dire que l'homme est une personne, c'est dire que dans le fond de son être, il est un tout plus qu'une partie, et plus indépendant que serf. C'est dire qu'il est un minuscule fragment de matière qui est en même temps un univers, un être mendiant qui communique avec l'être absolu, une chair mortelle dont la valeur est éternelle, un brin de paille dans lequel entre le ciel. C'est ce mystère métaphysique que la pensée religieuse désigne en disant que la personne est l'image de Dieu. La valeur de la personne, sa dignité, ses droits, relèvent de l'ordre des choses naturellement sacrées qui portent l'empreinte du Père des êtres et qui ont en lui le terme de leur mouvement. Avec une telle définition de la personne, vous comprenez qu'il est impossible de souscrire à une abnégation totale de la volonté propre au profit de la volonté générale pour la conclusion d'un contrat ou pour la sauvegarde de l'état civil contre l'état de guerre selon le schéma de Hobbes. Non, il y a une sorte de dépassement toujours permanent de la personne par rapport à toute institution qui serait au-dessus d'elle-même. C'est ça le paradoxe de la personne. Elle va être à la fois un individu social, un citoyen politique, et en même temps, elle sera au-dessus de tout cela par cette capacité d'infinitude qu'elle porte en elle du fait de son intelligence et de sa volonté et donc de sa configuration d'être à l'image de Dieu. C'est à partir de ces écrits, donc de la guerre, que Maritain peut définir un idéal démocratique qui est radicalement opposé à ce qui précède. La politique concerne les choses et les intérêts du monde, et elle relève des passions naturelles à l'homme et de sa raison. Mais ce que nous disons ici, écrit Maritain dans Christianisme et démocratie en 1943, autre écrit de la guerre, c'est que sans la bonté, l'amour et la charité, ce qu'il y a de meilleur en nous, et la foi divine elle-même, mais les passions et la raison davantage, tournent dans nos mains à un usage d'infortune. C'est qu'une droite expérience politique ne peut se développer dans les peuples que si les passions et la raison y sont orientées par un solide fond de vertu collective, par la foi et l'honneur et la soif de la justice. C'est que sans l'instinct évangélique et le potentiel spirituel d'un christianisme vivant, le jugement politique et l'expérience politique se défendent mal contre les illusions de l'égoïsme et de la peur. C'est que sans le courage, la compassion pour l'homme et l'esprit de sacrifice, la marche à chaque instant contrariée vers un idéal historique de générosité et de fraternité n'est pas concevable. Nous sommes en 1943 et il s'agit de soutenir les Français. Maritain écrira dans les messages qu'il envoie donc de manière sous manteau, on va dire, en France, qu'il faut risquer sa vie. Et que ce qui compte, ce n'est pas de mourir, c'est de la manière dont on meurt, c'est-à-dire le sens qu'on donne à sa vie. Et qu'il n'y a pas de vie sans risque. Il reprend cette idée à la grande mystique et s'intéresse à Villa, qui écrit qu'il ne faut pas risquer sa vie. Il faut risquer sa vie. Il n'y a pas de vie sans risque. Et cette audace qui est propre aux grands saints, justement, parce qu'ils sont articulés sur les vertus théologales, foi, espérance et charité, Maritain le reprend et l'a déjà repris, notamment en 1936 dans Humanisme intégral. Dans Humanisme intégral, il y a une idée absolument superbe. C'est de dire, si un État laïque exclut les chrétiens, exclut l'Église, c'est une tautologie. État laïque égale État laïque et il ne peut que s'étouffer. Ça ne veut rien dire. Tandis que si l'État laïque est conçu comme une addition et pas une exclusion, eh bien l'Église va donner son sens profond à l'État laïque. Pourquoi ? Parce que justement, par ses vertus théologales, elle va articuler la personne humaine sur du transcendantal, sur des transcendantaux, sur quelque chose qui sort de la sphère du monde. Il s'agit toujours de faire entrer le spirituel dans le temporel, selon l'adage de Maritain, et vice-versa, de donner au temporel sa véritable ordonnation. Le temporel est ordonné au spirituel parce que la grandeur de l'homme, c'est d'être à l'image de Dieu. Et cette conséquence dans Humanisme intégral se lit dans le déplacement que Maritain fait de la notion de sacré à la notion de sainteté. La notion de sacré est antique, elle est, on va dire, païenne, et elle ne correspond pas profondément à la nouveauté du christianisme. Le christianisme, lui, oppose au sacré, la sainteté. Et donc, ce que Maritain propose, c'est la sainteté du profane, la sanctification du profane. Et ça, c'est une grande idée nouvelle qui permet justement d'asseoir les écrits politiques qui vont culminer dans L'Homme et l'État, hein, qui est cette grande publication d'après la Deuxième Guerre mondiale, dont je vous montre ici les linéaments, les ferments. Alors, le ferment sur lequel s'appuie Maritain, c'est non seulement la réflexion politique, mais ça va être aussi le grand philosophe du début du siècle qui a marqué Jacques et Raissa, puisque en 1902, Jacques et Raissa sont invités par Charles Péguy à aller écouter Bergson dans ses cours au Collège de France. Et à cette époque, Bergson fait un commentaire de Plotin. Donc les Énéades de Plotin sont articulées autour de l'un et du bien. Et il s'agit finalement d'articuler la connaissance de l'un à une ascèse qui permet de remonter vers l'un. Et ces réflexions autour de Plotin vont donner aux Maritains un oxygène, un souffle, comme dira Maritain, un éros métaphysique, un désir métaphysique qui vient ouvrir le ciel philosophique assez noirci par le contisme, le scientisme, le kantisme aussi. Et donc voilà comment Maritain, dans « Christianisme et démocratie », écrit en 1943, rend hommage à Bergson. Comme Bergson l'a montré dans ses profondes analyses, c'est l'élan d'un amour infiniment plus fort que la philanthropie que les philosophes ont prêché, parce qu'il est la vie en nous de l'amour créateur des êtres et rend vraiment chaque être humain notre prochain, qui a fait franchir au dévouement humain les frontières fermées des groupes sociaux naturels, groupes familiales et groupes nationales, et l'a dilaté jusqu'au genre humain tout entier. Sans briser les liens de chair et de sang, d'intérêt, de tradition et de fierté dont le corps politique a besoin, et sans détruire les lois sévères de son existence et de sa conservation, un tel amour élargi à tous les hommes transcende et tout à la fois transforme du dedans la vie propre du groupe et tend à intégrer l'humanité tout entière dans une communauté des nations et des peuples où les hommes soient réconciliés. Car le royaume de Dieu n'est pas avare. La communion, qui est son privilège surnaturel, n'est pas gardée jalousement par lui. Il veut qu'elle se répande et se réfracte au dehors de son enceinte, sous les formes imparfaites et dans l'univers de conflits, de malices et de labeurs amers qu'est le domaine temporel. Là est le principe le plus profond de l'idéal démocratique, qui est le nom profane de l'idéal de chrétienté. C'est pourquoi, écrit Bergson, la démocratie est d'essence évangélique et elle a pour moteur l'amour. Mais par là même, il apparaît aussi que l'idéal démocratique va à contre-pente de la nature dont l'amour évangélique n'est pas la loi. Ce furent de fausses démocraties que les cités antiques, bâties sur l'esclavage, débarrassées par cette iniquité fondamentale des plus gros et des plus angoissants problèmes. La démocratie est un paradoxe et un défi adressé à la nature, à cette nature humaine ingrate et blessée, dont elle évoque en même temps les aspirations originelles et les réserves de grandeur. Ce qui importe à la vie politique du monde et à la solution de la crise de la civilisation n'est nullement de prétendre que le christianisme serait lié à la démocratie et que la foi chrétienne obligerait chaque fidèle à être démocrate. Non, c'est de constater que la démocratie est liée au christianisme et que la poussée démocratique a surgi dans l'histoire humaine comme une manifestation temporelle de l'inspiration évangélique.